Tout pour investir. Investir autrement.
Vous le savez, le plan épargne-retraite a séduit beaucoup de Français. 10 millions. 100 millions d'encours. Comment on explique cet engouement? Avec nous, notre gestionnaire de patrimoine, Bastien Baron. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes aux manettes de Justae Gestion Privée. Une question toute simple. Le sujet PER, plan épargne-retraite, vous l'avez souvent avec votre clientèle plutôt fortunée?
Souvent oui, on l'amène pour différentes problématiques, pas forcément uniquement la retraite. On peut avoir des sujets de défiscalisation également qui vont intervenir, avec potentiellement des sauts de tranche qui vont arriver à la retraite. Donc des clients qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui vont forcément normalement en gagner potentiellement moins à la retraite et vont déjà obtenir un gain fiscal en fait là-dessus. Et le cas qu'on a aussi énormément en fait, c'est sur la partie protection du conjoint. Parce que là finalement en fait, ça, on s'en sert un petit peu comme assurance décès, prévoyance, etc. Et principalement protection du conjoint. Pourquoi? Parce que depuis 2007, la loi TEPA, le conjoint est exonéré de droits de succession. Et finalement, un foyer en fait, qui va épargner aujourd'hui dans un plan épargne retraite et va bénéficier de 41-45% d'avantage fiscal selon sa tranche marginale d'imposition, le seul moyen finalement de ne pas repayer une partie de ce gain à la sortie, parce que lorsqu'on sort du plan épargne retraite, ça va s'ajouter à nos revenus à la retraite et donc on va être refiscalisé, on va être fiscalisé à ce moment-là, c'est s'il y a décès. Et s'il y a décès pour une personne qui est exonérée comme le conjoint survivant, finalement, en fait, personne ne repaye ces 41 ou 45% d'avantage fiscal qu'on a eu à l'entrée. Donc, nous, on s'en sert aussi comme un petit peu comme assurance décès, protection du conjoint, de ce point de vue-là.
Défiscalisation, solution de prévoyance, assurance décès, protection du conjoint. C'est pas forcément les usages auxquels on pense le plus quand on parle du PER, surtout cette semaine où on a tous célébré, les médias ont beaucoup célébré le succès de ce plan. Est-ce que vous pouvez nous toucher un tout petit mot du PERP? Alors le deuxième P étant pour populaire, on en parle moins. Il est moins populaire, ce plan épargne-retraite populaire.
Tout à fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y avait le terme populaire dedans, alors que ça ne l'était pas vraiment, parce que c'est... comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, l'argent qu'on va verser dans un plan épargne-retraite populaire ou dans un plan épargne-retraite par ailleurs, ça va se déduire des revenus, de notre revenu imposable. Donc en fait, plus on est dans les tranches hautes, donc plus on gagne beaucoup d'argent, plus c'est intéressant. Donc finalement, ce n'était pas réellement populaire.
Pas un outil pour les CSP moins ou les gens à revenus moyens.
Ouais. Bah non, parce que quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, déjà, il n'a aucun intérêt d'investir dans un plan épargne retraite, qu'il soit un PERP ou non. Et le PERP, en fait, a été remplacé progressivement par le plan épargne retraite, donc le PER, à partir de 2019. Donc là, c'était la loi Pacte, en fait, qui a été promulguée. Et donc là, la grosse différence, pourquoi c'est moins intéressant? Un gros sujet, en fait, c'est que les Français avaient beaucoup de mal sur le système de rente. C'est-à-dire que le PERP, quand on voulait récupérer son argent à la retraite, on pouvait récupérer jusqu'à 20% capital et le reste sous forme de rente. Ça plaisait pas beaucoup. Le plan épargne retraite aujourd'hui, il a quand même révolutionné tout ça sur la partie individuelle. C'est-à-dire qu'on a la main pour récupérer 100% capital dès qu'on a l'âge légal de départ en retraite, ou on peut attendre pour le débloquer. On peut en prendre une partie tout de suite et en reprendre une partie derrière. On peut toujours partir sous forme de rente si c'est la solution qui nous intéresse. Donc c'est beaucoup plus souple. Et en fait, c'est ça qui a permis aussi, je pense, quand on voit les chiffres aujourd'hui. Et c'était pas 100 millions, c'est 100 milliards d'encours.
Donc j'ai dit 100 millions, ouais, pardon. 100 j'ai un gros problème entre millions et milliards cette semaine. Je présente mes excuses aux auditeurs. 100 milliards, pardon, d'encours, ouais, évidemment.
Donc les montants, en fait, sont assez importants et ça devrait continuer dans ce sens-là. Surtout que le sujet de la retraite, c'est un vaste sujet déjà depuis quelques années. On a fait télé un an aussi de la réforme des retraites.
Absolument. Voilà, donc... On a Thibaut qui a 30 ans et qui nous demande si c'est une bonne idée d'ouvrir un PER. Je pense que la réponse, c'est oui. À partir du moment où vous payez un peu plus que 10% d'impôts.
Exactement.
On va dire que c'est ça. Et on a surtout une question en une ou deux minutes, si vous pouvez, mon cher Bastien, nous aiguiller, enfin nous répondre. Répondre en tout cas à Raphaël qui nous a écrit. Il avait deux PERP depuis quelques années. Il a fait une demande de sortie anticipée dans le cadre du déblocage pour situation exceptionnelle, parce qu'il y a quelques situations exceptionnelles, oui, qui permettent de débloquer. En l'occurrence, pour lui, c'était l'expiration de ses droits aux allocations chômage. Il a bien été remboursé par son assureur, mais certaines sommes ont été amputées. On lui a prélevé des cotisations sociales sur les montants retirés et pourtant il ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre en quelques phrases?
On peut lui répondre effectivement en fait qu'il y a des c'est un vrai sujet en fait, la partie sortie anticipée en cas de fin des allocations chômage. Il faut savoir que ça fonctionne déjà uniquement quand c'est suite à un licenciement.
Ouais.
Donc si c'est une rupture conventionnelle, une démission, etc., ça va pas fonctionner. Mmh. Donc ça fonctionne dans ce cas-là. Derrière, il y a encore un flou. C'est-à-dire qu'il y a l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui est énormément sur la partie assurantielle, qui s'est positionnée en disant que les prélèvements sociaux ne devaient pas être prélevés. Il y a la cour d'appel, je crois c'est de Grenoble, qui s'est positionnée aussi en disant la même chose, mais l'administration fiscale ne s'est pas encore positionnée. Donc là, on parle des prélèvements sociaux, c'est 9,1%. Et il y a un sujet, en fait, sur les, tout ce qui est pension de remplacement.
Mm-hmm.
Donc là, on est vraiment dans ce cas-là. En fait, ça va remplacer, du coup, la fin des allocations chômage, etc. Et pour l'instant, bah, il y a un petit peu un flou. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est que ce que je lui dis là, c'est pas encore opposable à l'administration fiscale.
Mais peut-être, ça le sera.
Ça le sera un jour, mais il n'y a pas une jurisprudence, en fait, qui a été actée sur le sujet. Donc... Il y a des compagnies d'assurance, on va dire, qui sont un peu ceinture bretelle, qui vont prélever ces 9,1% de prélèvements sociaux pour les redonner à l'État. D'autres qui sont peut-être plus souples et ne vont pas forcément le faire parce que la position n'est pas claire.
Voilà ce qu'on pouvait vous répondre, cher Raphaël. On le voit, gros flou. En tout cas, merci Bastien pour ce topo. PER versus PERP, cet intérêt pour les Français, 10 millions séduits, 100 milliards d'encours et différents usages de ce PER qui peut aussi fonctionner peut-être pour les profils les plus capitalisés, à la fois comme un outil de défiscalisation et aussi, vous l'avez entendu, comme une solution de prévoyance, d'assurance décès et de protection de votre conjoint.